Super, merci à tous d'être ici. On va commencer notre atelier « Vivre une vie de défi » et je vous présente juste Noémie avec qui je vais faire l'atelier. Elle a 21 ans, elle fait des études de droit et elle est dans l'équipe de La Rébellion, c'est une éditrice. Donc voilà, elle interviendra un peu plus tard sur différentes choses. Qui suis-je ? Je vais commencer par là parce que de là découle beaucoup de choses. Alors quand j'avais 17 ans, j'étais un parfait hypocrite. C'est-à-dire que j'allais dans mon église avec mes parents, je suis né dans une famille chrétienne, et j'étais un fervent pratiquant du sourire évangélique. Je ne sais pas si vous connaissez, comme ça. On est très content de voir tout le monde, et on joue, et même j'ai trois frères et sœurs, deux grandes sœurs et un petit frère, et on aimait bien jouer à la bonne petite famille parfaite. Et puis, une fois qu'on était pendant la semaine et que mes parents ils étaient au travail ou ils n'étaient pas dans la maison, moi, j'avais quelque chose pour m'amuser un peu particulier. J'aimais bien frapper mon frère, j'aimais bien l'insulter, j'aimais bien... alors, maintenant, on peut en rire, mais même pas trop, en fait, parce que c'était assez dur pour lui, particulièrement, comme vous pouvez sans doute l'imaginer. Et du coup, ça s'est mal terminé. Lui, il a commencé une dépression, il a arrêté de manger. Et voilà, et d'un côté de ma vie, j'avais cette relation fraternelle qui était en train de démolir toute la famille peu à peu sans que mes parents le sachent. Et de l'autre côté, j'avais une vie évangélique toute bien et j'étais même prêt à me faire baptiser à un moment. Mais voilà, Dieu n'a pas permis que ça se fasse parce que j'avais des choses à régler et je ne le savais pas encore. Et je pensais encore à cette époque-là que j'étais chrétien alors que j'avais des choses à régler dans ma vie. Et puis, à un moment... je suis arrivé pour mes études, j'ai passé mon bac, j'ai passé un bac S, j'ai commencé mes études dans une école de commerce, dans une autre ville que celle dans laquelle j'étais, donc je viens de Normandie, donc j'ai grandi en Normandie, donc j'ai fait une première école de commerce en Normandie aussi. Et là, dans cette ville, il y a un homme un peu plus âgé que moi, qui avait 25 ans, qui faisait son stage pour devenir prof d'anglais, qui m'a dit pendant un camp l'été, « Nicolas, on va être ensemble dans la même ville pendant un an, ça te dirait qu'on lise la Bible ensemble toutes les semaines ?» Et j'ai eu la folie de dire oui, et c'est ce oui en fait qui m'a engagé dans un défi de lire la Bible et de partager avec lui chaque semaine. Et bah, face à la parole, je me suis converti, ou plutôt Dieu m'a converti et m'a montré que je pouvais pas avancer avec lui si j'avais pas réglé la relation qui était avec mon frère. Je lisais des passages dans la première épître de Jean qui dit « Celui qui n'aime pas son frère est un menteur ». On ne peut pas aimer Dieu sans aimer son frère. Je me disais, waouh, mais c'est incroyable. Et du coup, j'ai compris qu'il fallait que je règle des choses dans ma famille avant de pouvoir avancer plus avec Dieu. Et du coup, j'ai une semaine en vacances de février en 2010. J'étais demandé pardon à chacun des membres de ma famille pour tout ce que j'avais causé. Et j'étais pardonné. Et par le pardon de ma famille, j'ai compris le pardon de Dieu pour moi. Et à partir de cette conversion, je me suis fait baptiser en juin de cette même année 2010. J'ai commencé à m'engager dans toutes sortes de défis. Alors, j'appelle ça une vie de révolutionnaire parce que j'aime bien ce mot. Je me suis engagé dans le blog La Rébellion pendant plusieurs années en tant qu'auteur, en tant que relecteur, en tant que coordinateur après. Et c'est vraiment ça. J'avais envie de me rebeller contre ce qu'on attend habituellement de la jeunesse. Noémie nous en parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Mais voilà, j'avais envie de faire plus et de bien utiliser tout mon temps pour Dieu et toutes les ressources que j'avais. Donc, juste pour mon parcours scolaire, pour que vous sachiez, ensuite, après ma première école de commerce, j'ai fait un master à Paris, un master d'audit et de contrôle de gestion. Et ensuite, je me suis marié à Paris, je suis parti avec ma femme un an en Amérique latine. Et je vous montre juste, voilà, ça c'est ma femme, elle s'appelle Anna, elle est violoniste... professionnelle et elle n'a pas pu venir parce qu'elle passe un concours, elle a un défi elle aussi. Elle passe un concours mardi et donc elle bosse 8 heures de violon par jour en ce moment pour réussir son concours. Et puis voilà, ce qui vous prouve que je suis bien allé en Amérique latine. Ouais, donc j'ai été un an en Amérique latine, j'ai fait 6 mois de volontariat en 6 mois de volontariat au Pérou, 3 mois de volontariat en Équateur. J'ai visité 7 pays en tout en les traversant de part en part en bus ou en autostop. J'ai monté un projet de développement musical avec ma femme dans un orphelinat de mères adolescentes, des filles qui étaient plus jeunes que vous et qui avaient déjà un ou deux enfants. Ma femme, elle a pu jouer du violon à un président de la République. Et ce qui est ouf, c'est que ce président de la République était assez âgé, il est décédé, et elle a joué du violon aussi à ses funérailles, donc à un mois d'intervalle, un truc de dingue. Et moi, je veux vraiment m'engager dans le ministère. Alors, j'ai un travail séculier, je bosse 42 heures par semaine au minimum, mais à côté, je veux avoir une vie à fond dans le ministère et faire tout ce que je peux pour Dieu, tout ce que mes forces me permettent. Et du coup, quand j'étais en Amérique latine, j'ai pu faire un remplacement pastoral dans une petite implantation d'église au Pérou, dans une petite ville qui s'appelle Chincha. Et donc, du coup, ça m'amène à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis de retour en Normandie. Je suis en train de construire une centrale nucléaire à Flamanville avec tout un tas d'ingénieurs super intelligents. Et moi, je m'occupe de la partie finance du projet. Et mon prochain défi, c'est d'intégrer une équipe pour implanter une église dans la ville où on est. Parce qu'on est dans une ville de 100 000 habitants et il y a deux églises. C'est une des régions les plus pauvres en église de France. Et donc, j'ai ce désir qui brûle. Et ce à quoi je veux vous encourager aujourd'hui, c'est vraiment que quand on voit la vie pleine de défis, on ouvre les yeux sur le plan de Dieu. Quand on voit la vie pleine de défis à relever, on ouvre les yeux sur ce que Dieu veut pour nous. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Quand tu vois la vie pleine de défis, tu ouvres les yeux sur le plan de Dieu. Alors, on va voir. D'abord, j'aimerais juste un peu mieux vous connaître. Et donc, je vais vous poser quelques petites questions. Et puis, vous lever la main si vous avez déjà relevé ce défi, d'accord ? Qui a déjà entretenu pendant plusieurs mois ou plusieurs années une relation avec un mentor ? Levez la main. Super. Qui n'a jamais goûté à la cigarette ? Levez la main. Super. Qui a déjà lu sa Bible en entier ? Super. Qui a déjà créé une association ? Ah, là déjà le niveau monte. Hein. Super, nickel. Qui a déjà écrit un livre ?
C'est à moitié.
Qui a déjà remporté un concours ou une compétition de sport, de musique, d'art? Merci. Qui a déjà suivi entièrement du début jusqu'à la fin un MOOC? Vous savez, ces plateformes d'enseignement gratuit, de vidéos gratuites d'enseignement. D'accord, super. Qui est déjà parti seul à l'étranger pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines? Ah, nickel, super. Qui a déjà parlé de Jésus et de l'évangile à un pote de son lycée? Ah, super, on a des évangélistes ici. Et qui est-ce qui a déjà risqué sa vie pour l'annonce de l'évangile? D'accord. Super. Bon, c'est juste voilà, pour savoir un peu à qui j'ai affaire et savoir si bah, déjà les défis, ça vous parle, ça vous tente, et c'est des choses que vous avez envie de continuer à faire dans votre vie. Donc aujourd'hui, voilà le programme. D'abord, on va voir que la vie chrétienne, c'est une vie de défi. Ensuite, on va voir 5 vies qui, moi, en tout cas, m'inspirent et que je vais tenter de vous convaincre qu'elles peuvent vous inspirer aussi. Ensuite, on va parler un peu de la révolution. Je vais vous encourager à relever de bons défis et pas des mauvais défis. Et puis ensuite, on verra 5 étapes pour vraiment vivre une vie de défi, c'est-à-dire pas seulement relever des défis, mais avoir le faire sur la durée et avoir des 5 un peu outils pratiques pour pouvoir le faire au quotidien. La vie chrétienne est une vie de défis. C'est la conclusion auquel moi je suis arrivé quand je lis la Bible. Déjà, ça commence avec Adam et Ève. C'est un défi énorme. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous ne touchez pas à cet arbre-là. Et un défi complètement raté, c'est la chute. Adam et Ève ont chuté, justement, et ils ont mangé de ce fruit. Et premier défi non relevé par l'homme, ça commence déjà très mal. Mais ensuite, il y a plein d'autres exemples de défis. Vous connaissez peut-être Josias, qui à 8 ans, il a été proclamé roi. À 16 ans, il s'est converti. À 18 ans et 20 ans, il a commencé une réforme dans le pays. Et il y a des centaines de personnes qui se sont converties. Il a retrouvé la loi et il la faisait lire à des centaines de personnes. Un ouf, quoi. Ce gars, il était plus jeune que vous. Gédéon, voilà, vous connaissez tous l'histoire. Hein. Il a défoncé une armée avec 300 personnes. Pierre, pareil, Dieu lui a fait confiance alors qu'il l'avait trahi. C'est des trucs de fou. Et donc, d'autres exemples de vie que moi je vois dans la Bible, qui sont des exemples pour moi de vie pleine de défis. Donc, je pense par exemple à ce gars qui était meurtrier bègue au début de sa vie et Dieu l'a appelé à être porte-parole du peuple. C'est qui ? Moïse, super. Le deuxième, quel est un jeune berger qui est devenu chef guerrier et grand roi ? David. Le troisième, un persécuteur de l'Église ? Paul. Et tout à fait. Et le dernier, des humains pécheurs qui deviennent des fils éternels du roi des rois. Ça vous parle ? C'est nous. C'est incroyable. Dieu, un des défis qui se lance, c'est de dire, je vais prendre des humains qui sont pécheurs. Qui sont pécheurs. J'ai en horreur le péché, mais je vais prendre des humains qui sont pécheurs et je vais les adopter. Et je vais en faire des fils éternels et ils vont servir à proclamer ma gloire. Et ça, c'est le plan de Dieu pour nous et c'est un défi de fou auquel il nous appelle et qu'on peut relever. Et ce à quoi moi je me rends compte en fait dans la Bible, en lisant la Bible et en voyant tous les commandements de Dieu, c'est que Dieu, pour nous mener à la perfection, il nous pousse à l'action, il nous pousse à relever des défis. Quand on lit par exemple que Dieu nous donne les défis que Dieu nous lance, quand il nous dit par exemple « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », c'est un défi de dingue, c'est un défi de ouf. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça, mais on est appelé à tenter de relever ce défi de toutes nos forces et de toutes les forces que Jésus nous donne. Ensuite, quand il nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », on doit aimer les gens de l'amour que Jésus a pour nous. C'est un truc de dingue aussi, c'est un sacré défi. Et quand il nous dit « Faites de toutes les nations des disciples », c'est ouf aussi. Tout ça, c'est des défis que Dieu nous lance et ce n'est pas à prendre au second degré. C'est vraiment à fond et c'est des commandements que Dieu nous demande, nous ordonne. Et un gros défi qui est le plus important et sur ce qui va vous permettre de bâtir en fait toute votre vie ensuite, c'est le défi de croire en Dieu et de suivre Jésus. Et si vous n'avez pas relevé ce premier défi, tous les défis que vous allez relever ensuite, ils n'auront aucun sens. Il faut premièrement suivre Jésus si vous voulez que les défis ils ont un sens. Sinon, les défis que vous allez relever, vous allez les relever pour vous, pour votre gloire. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Donc, pour nous mener à la perfection, Dieu nous pousse à l'action. J'aimerais vraiment que vous reteniez cette phrase. Et vraiment, au quotidien, on peut tous relever des défis qui font plaisir à Dieu. Je passe à la suite. 5 vies inspirantes. Et la première, c'est Malala Yousafzai. Il y en a qui la connaissent ici ? Ouais. Donc, Malala Yousafzai, c'est une fille qui, à 11 ans, on lui interdisait d'aller à l'école et elle tentait d'y aller quand même. Et comme on continuait de lui interdire, elle a commencé à écrire sur un blog au Pakistan, dans son pays, sur l'importance de l'éducation et sur l'importance d'aller à l'école pour les jeunes filles particulièrement. Et suite à ça, elle a reçu différentes distinctions internationales. Et du coup, il y a des talibans qui ont tenté de la faire taire, qui lui ont tiré une balle. Elle s'est passée sur sa tête, sur son front, comme le disait la vidéo. Et c'est juste un truc incroyable, quoi. Et ensuite, elle a survécu. Et ensuite, elle défend le droit des femmes à différentes occasions. Et elle a même reçu le prix Nobel de la paix. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Ah, elle avait 20, à 16 ans. À 16 ans, 2004, elle a reçu le prix Nobel de la paix, quoi. Vous étiez où, à 16 ans ? Franchement, moi, je prie pour qu'on puisse avoir... Elle est musulmane, quoi. Moi, je prie que chez les chrétiens, on puisse avoir des gens qui se lèvent pour défendre les droits des pauvres et qui se lèvent, pas parce qu'ils ont... Et justement, qui puissent dire, pourquoi tu... Quand on leur pose la question, quand les journalistes, ils leur posent, mais pourquoi tu fais ça ? Ils puissent dire, je le fais parce que Jésus a changé mon cœur. Je le fais pour la gloire de Dieu. Et je rêve que même parmi vous, il y en ait qui se lèvent, qui deviennent des hommes politiques, des mecs comme ou des filles comme Malala, des gens, peu importe. Mais que vous puissiez vous engager dans des trucs à fond et que vous puissiez le faire pour la gloire de Dieu. Et franchement, ce serait génial. Donc ça, c'est un exemple, Malala. Un autre exemple, c'est Jim et Elizabeth Elliot, dont on a parlé un peu ce matin. Je vais reprendre là où l'histoire s'est arrêtée. Donc il est arrivé en Équateur quand il avait 24 ans. Moi, j'ai 25 ans aujourd'hui, donc c'était il y a un an. Pour moi, comme il est arrivé en Équateur. Et ce qui est super intéressant, c'est que j'ai été en fait en Équateur dans les endroits où il a évangélisé. Et c'est juste incroyable de voir le chemin parcouru entre quand il y est allé et aujourd'hui. Donc il avait 24 ans, il est resté 2 ans, si je ne me trompe pas. Il est resté trois ans là-bas et il s'est fait tuer parce qu'il voulait atteindre ce peuple qui n'avait aucune notion de l'évangile et qui avait tué toutes les personnes qui avaient tenté de s'approcher de ce peuple Waorani. Des fois, on les appelle les Oka, mais les Oka, ça veut dire sauvage. Donc, moi, je trouve que c'est plus respectueux quand même de dire le peuple Waorani. Et donc, dans ce peuple Waorani, aujourd'hui, il y a les meurtriers de Jim Elliot. Il y en a un qui est ancien dans une église, qui s'est converti et qui est ancien dans une église. Et il y a même des voyages touristiques qu'ils organisent pour envoyer des avions pleins j'imagine, d'Américains qui ont lu la biographie de Jim Elliot, qui les envoient pour aller prier avec cet ancien qui a tué, qui a participé à l'expédition d'une dizaine d'hommes qui a tué Jim Elliot et ses quelques compagnons. Mais là, je veux juste qu'on s'attarde aussi sur Elizabeth Elliot. Elizabeth, c'était sa femme. Donc imaginez, elle perd son mari, elle avait le même âge que lui à peu près, à 24 ans. Après 3 ans ou 4 ans de vie commune, elle perd son mari dans des circonstances tragiques, parce qu'ils ont été transpercés de flèches, c'est juste incroyable ce qu'ils ont vécu. Et elle, ce qu'elle s'est dit, elle a travaillé avec la sœur d'un autre gars qui a été tué, qui s'appelle Rachel Saint, et toutes les deux ensemble, elles ont travaillé, elles sont retournées dans ce village, et elles leur ont annoncé l'évangile. Et cette fois-ci, ils étaient beaucoup plus apaisés. Ça a pris des années, mais au final, le village s'est converti et il y a des gens qui sont nés nouveaux aujourd'hui dans cette église. Il y a une partie des meurtriers qui sont décédés, mais il y en a qui sont encore vivants aujourd'hui et qui ont des responsabilités dans une église. C'est incroyable. Et moi, je me dis, c'est fou la vie de Jim Elliot, qui était prêt, comme on l'a vu dans un des défis tout à l'heure, qui était prêt à risquer sa vie pour l'évangile. Mais c'est aussi fou la vie de cette femme, Elizabeth Elliot, qui s'est dit... Ben, j'ai perdu mon mari et c'est une tragédie. Et j'imagine pour elle, quand elle était avec les 5 autres veuves ce soir-là, quand elles se sont réunies et quand elles ont appris la nouvelle, ça devait être juste terrible, quoi. Mais elles se sont dit, on va continuer le travail, je ne veux pas que mon mari soit mort en vain. Et elles ont continué le travail et petit à petit, Dieu a fait son œuvre. Et la mort de Jim Elliot, ça a servi finalement à ce que beaucoup entendent l'évangile. Et je trouve ça juste incroyable, cette histoire. Et particulièrement aussi parce que j'ai été en Équateur, dans cette région, j'ai visité le truc où partent les avions, là, les aéroports, un petit aéroport où partaient les avions pour aller atterrir sur la plage où ils ont été tués, quoi. Enfin, j'ai visité ces endroits-là et c'est juste incroyable. Il y a des musées là-bas qui racontent l'histoire de ces 5 hommes. Et une citation que j'aimerais vous partager de Jim Elliot qui dit « Quand l'heure de mourir arrivera, sois sûr de n'avoir rien d'autre à faire que de mourir. » C'est-à-dire, sois prêt à chaque instant de mourir et sois sûr que tout ce que tu voulais faire avant, tous les défis que tu voulais relever, tous les objectifs que tu t'étais fixé pour ta vie, tu les as déjà relevés parce qu'à un moment, tu dois mourir. Un autre type de révolutionnaire, c'est Jonathan Edwards. Peut-être, il y en a certains ici qui connaissent John Piper. Ouais. Et bah, Jonathan Edwards, c'est en fait toute l'inspiration de John Piper. Bon, j'exagère un peu, mais John Piper a piqué pas mal de choses à Jonathan Edwards. Et si vous voulez voir l'essence de la théologie de John Piper, vous regardez dans l'œuvre de Jonathan Edwards. Et Jonathan Edwards, quand il avait 20 ans, il s'est converti. Et juste après sa conversion, il a écrit une liste de plus de 70 résolutions dans lesquelles il s'engageait pour toute sa vie à relever des défis. Et je vais vous lire certaines de ces résolutions qui sont juste incroyables. Et ça montre vraiment la fermeté qu'il avait, lui, pour vouloir honorer Dieu, le servir dans tous les aspects de sa vie. Je suis résolu de m'examiner chaque nuit quand je me couche pour voir si j'ai été négligent, si j'ai péché ou si j'ai vécu de manière sacrificielle. Je suis résolu d'étudier les Écritures avec tant d'assiduité, de constance et fréquemment que ma croissance dans la connaissance de la parole me soit constamment évidente. Je suis résolu dès aujourd'hui et jusqu'à ma mort de ne pas agir comme si je m'appartenais, mais comme étant entièrement à Dieu et de vivre d'une manière conforme à cette vérité. Je suis résolu de faire tout ce que je conçois comme étant le meilleur pour la gloire de Dieu, pour mon propre bien, bénéfice et plaisir pendant toute ma vie, sans tenir compte du temps, que ce soit maintenant ou n'importe quand dans le futur. Et une autre que j'aime particulièrement et qu'on a besoin tous de méditer, je suis résolu de ne jamais perdre de temps, mais de faire fructifier chaque instant autant que je le peux pour le plus grand profit. Je pense que ça n'a pas perdu un seul iota de sa profondeur, cette citation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait un peu, qui saurait parler juste 2 minutes du grand réveil qu'a initié Jonathan Edwards ? Personne, il n'y a pas un étudiant en histoire de l'Église. Moi, je suis incapable, je n'ai pas bossé le sujet, je suis désolé. Mais s'il y a quelqu'un ici qui peut juste dire, parler du ce qu'on appelle le Great Awakening qui a eu lieu, personne ? Bon, c'est pas grave, vous étudierez cette période-là. Mais en gros, suite à ces prédications de Jonathan Edwards, il y a eu beaucoup de pécheurs qui revenaient à Dieu, qui se repentaient, et ça a eu lieu aux États-Unis au XVIIIe siècle. Je continue avec Annie Skow-Bertsen et je demande à Noémie de venir nous parler de cette jeune femme.
Salut tout le monde. Alors, moi, c'est Noémie. J'ai 21 ans et je fais partie de la Rébellion. Et donc, moi, j'ai vraiment envie de vous présenter Annie Skobarsten. Donc, c'est une Norvégienne qui a connu Dieu à l'âge de 20 ans. Et donc, elle a toujours... en fait, sa conversion s'est faite vraiment de manière intéressante parce qu'elle a toujours voulu devenir infirmière, mais elle ne pouvait pas parce qu'il fallait être pour être infirmière, pour entrer dans l'école, il fallait avoir 23 ans et elle n'avait que 20 ans. Mais dès qu'ils l'ont vue, dès que les infirmières en chef l'ont vue, elles ont accepté de la prendre parce qu'elle était tellement grande, elle faisait 1m83. Et ils se sont dit, ouais, non, elle a l'air robuste, elle va pouvoir être infirmière. Et la première fois qu'elle est allée dans une salle où il y avait un patient, il avait la tuberculose, il était vraiment en train de pleurer, de crier, et elle ne supportait pas de l'entendre pleurer comme ça. Et il lui demandait de l'aide, il lui disait « Mais comment je peux faire pour être sauvée ?» Et elle, qui avait reçu une éducation chrétienne, elle est sortie en courant, elle a vraiment réalisé qu'en fait, elle n'était pas chrétienne. Elle n'avait pas, elle connaissait pas le Seigneur, et c'est quelque chose qui l'a vraiment poussée à réfléchir. Et ce qui est intéressant, c'est que juste après, une infirmière qui était là, qui était chrétienne, a parlé à ce jeune homme qui était en train de mourir, et il a pu partir en paix. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment marqué Annie, et c'est vraiment quelque chose qui l'a fait réfléchir. Et donc, elle avait 20 ans, elle devait être un peu plus vieille que la plupart d'entre vous. Et c'est vraiment quelque chose qui a vraiment commencé à... Enfin, elle avait vraiment à cœur de servir Dieu. Elle ne savait pas comment, mais elle réfléchissait à la manière de servir Dieu. Et donc, elle a continué ses études d'infirmière. Elle a commencé à s'engager dans son église. Et Dieu lui a mis à cœur de penser au peuple chinois. Elle ne connaissait pas du tout la culture chinoise. Pas du tout, du tout. Mais elle s'est dit que... Enfin, Dieu avait vraiment mis à cœur d'aller dans ce pays qui avait beaucoup de besoins, alors qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu a vraiment pourvu. Il a permis que son union d'église puisse l'encourager, l'aider pour qu'elle puisse aller à une formation de missionnaire. Et elle a pu partir en Chine. Et ce qui est intéressant, c'était qu'elle était une jeune femme de 27 ans quand elle est partie. Elle était seule. Elle connaissait personne lors du voyage, elle ne connaissait personne. Elle ne connaissait pas du tout la langue, mais elle avait vraiment cette flamme qui brûlait en elle, cette flamme de glorifier Christ, parce que c'était vraiment un défi, partir de la Norvège pour aller en Chine. Je ne sais pas si vous réalisez le truc. Et dès qu'elle est arrivée, elle a vraiment eu du mal à parler la langue. Elle a eu du mal à se faire accepter parce qu'elle était un peu un extraterrestre pour le peuple. Elle faisait 1m83. Il y a des gens qui la prenaient pour une divinité. Ils disaient que c'était une géante. Et, elle parlait même pas chinois. C'était vraiment compliqué au début. Et en plus, elle avait un caractère bien trempé. Mais elle s'est pas découragée. Elle a fait confiance à Dieu. Et elle a vraiment prié. Elle s'est investie. Et la manière dont elle a témoigné son amour en soignant les malades, a vraiment touché le peuple. Et elle a vraiment eu à cœur de parler de Jésus. Les premiers mots en chinois qu'elle a appris, c'était des passages pour évangéliser. Donc elle avait vraiment à cœur de servir, ce qui a marché, parce qu'elle a vraiment touché de nombreux cœurs, elle a motivé de nombreux Chinois, de nombreuses personnes ont été touchées par son témoignage. Mais par contre, elle a dû partir à un moment à cause de la guerre, il y a eu le communisme, etc. Et quand elle est revenue, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a vraiment pu impacter aussi des communistes, des personnes qui détestaient les chrétiens, qui détestaient ce qu'ils faisaient. Et son témoignage a tellement encouragé les autres qu'elle est passée à la télé en Norvège quand elle est rentrée. Et elle a vraiment tenu à partager ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait pu vivre. Et ça a touché de nombreux Norvégiens. Ça les a poussés à s'investir eux aussi pour aller aider les Chinois, mais aussi dans d'autres pays. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que d'une simple vision, ça a vraiment poussé de nombreuses personnes à s'engager et à servir Dieu. C'est seulement à l'âge de 51 ans qu'elle s'est mariée. Et donc elle est née en 1911, désolée, j'ai même pas donné les dates. Elle est née en 1911 et elle est décédée en 1992. Elle s'est mariée à 51 ans. Et je ne vous dis pas que si vous investissez dans l'œuvre du Seigneur, vous allez attendre vraiment 51 ans pour vous marier. Mais ça illustre juste à quel point elle avait son objectif, servir Dieu. Et j'ai lu un livre sur elle, et on voit vraiment que c'était son objectif, servir Dieu, glorifier Dieu. Sa vie, ce n'était pas juste manger, aller au travail, avoir à cœur de se marier. Elle voulait servir Dieu, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et maintenant, de nombreuses personnes sont impactées par son témoignage encore aujourd'hui. Donc voilà qui elle était. Ah oui, c'est vrai. C'est à gauche. Ok. Oui, je vais en profiter aussi pour vous parler d'Alex et Brett Harris. Je pense que la plupart d'entre vous les connaissent, je ne sais pas. Qui connaît Alex et Brett? Ok, donc ça va. Donc Alex et Brett Harris sont des Américains. Et donc il en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment eux qui ont impulsé un mouvement qui s'appelle la Rébellion. Donc en fait, ça commence avec une idée, encore une fois, une vision. C'est deux jeunes de 15 ans qui pendant leur été, se disent « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Enfin, il n'y a rien à faire. Enfin, on aimerait bien qu'il se passe quelque chose, mais il ne se passe rien. Et leur père les pousse à lire des livres, plein de livres. Et donc, ils se mettent à lire, ils lisent. Et à la fin de toutes ces lectures, ils se disent « mais c'est pas possible. Enfin, nous, les ados, on n'est pas juste amenés à aller à l'école et rien faire. On n'est pas juste amenés à faire des choses simples. On devrait pouvoir s'investir et faire de grandes choses. Enfin, » dans la Bible, l'adolescence n'existe pas. Et c'est vraiment quelque chose qu'ils avaient à cœur de partager aux autres. Ils se demandaient, mais comment on peut faire pour qu'une génération puisse se lever? Et donc, ils se sont dit, bon, on va créer un blog. On va partager un petit peu nos idées. Et donc, ils créent le blog La Rébellion, enfin The Rebellion en anglais. Et donc, ils commencent à partager leurs idées. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en commençant ça, de nombreux jeunes vont commencer à les suivre. Et en fait, l'idée qu'ils avaient, de nombreuses personnes la partageaient. Et en fait, il fallait juste qu'une personne ouvre la bouche pour que d'autres puissent s'exprimer. Et donc, ils commencent à écrire des articles sur le fait que l'adolescence n'existe pas, que les jeunes peuvent relever des défis, qu'ils devraient pouvoir faire certaines choses. Et ils sont vraiment encouragés par d'autres jeunes qui disent « Ah quoi, vous aussi, vous pensez comme ça? Ah ouais, moi c'est pareil !» Et en fait, ils réalisent que de nombreux jeunes qui ne se connaissent pas, ne vivent pas du tout dans le même pays, dans la même ville, ont la même vision, et ils se disent là, waouh, il y a un truc qui se passe en fait. Et donc, ils sont repérés par un magazine américain qui a écrit un article sur eux, et ils commencent à se faire connaître petit à petit, ils se disent, des jeunes qui veulent se faire entendre, des jeunes qui veulent faire des choses. Et donc, un juge de la Cour suprême leur propose de venir faire un stage à la Cour suprême, mais de faire en sorte qu'il n'y ait pas de traitement de faveur, de vraiment les voir comme des adultes. Donc ils sont acceptés, ils vont faire le stage à l'âge de 16 ans et ils commencent par des choses basiques, des relectures, des corrections, etc. Ils travaillent tellement bien qu'au final, ils ont de plus en plus de responsabilités et ils sont tellement contents qu'ils se dépêchent à la fin de leur stage d'en parler sur le blog et ça motive tellement les jeunes qui se disent « Ah ouais, nous aussi on veut faire des choses, etc. » Il y a d'autres jeunes qui commencent à envoyer des témoignages. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Ah, quoi, t'as fait ci, toi aussi. Enfin, et ils réalisent qu'en fait, ils réalisaient tous des défis que les adultes pouvaient trouver trop grands pour de simples ados de 15 ans, de 16 ans, de 17, de 19 ans, etc. Et ce qui est intéressant, c'était que ça pouvait être un défi comme aller à la Cour suprême, mais aussi tout simplement faire la vaisselle, tout simplement faire son lit. C'était... vraiment des petits défis qui ont poussé à encourager la jeunesse. Et ça a contribué vraiment à créer un mouvement. Pas juste un mouvement pour nager à contre-courant, pour être cool. Ah ouais, nous les chrétiens, on ne fait pas comme les autres, on est sages, etc. Non, c'était vraiment un mouvement aussi pour montrer que, bibliquement parlant, l'adolescence n'existe pas. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui. La société, elle veut vraiment que les jeunes, ce soient des paresseux. Mais nous, on croit vraiment que ce n'est pas le cas. Je crois que j'ai bougé. Non. Donc voilà. Donc voilà ce qu'ils ont impulsé. Et j'aimerais vous dire quelques mots sur ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, enfin sur ce qu'ils sont maintenant. Donc ils sont tous les deux mariés. Et Brett, qui s'est marié... Non ? Ok. Pourquoi certaines personnes savent ce qu'ils sont devenus maintenant ? Non ? Ok. Brett s'est marié et ce qui est vraiment fort dans son témoignage, c'est que quelques mois après son mariage, sa femme a été, enfin, on a diagnostiqué une maladie très rare à sa femme, et donc elle était totalement paralysée. Elle est totalement paralysée. Il a dû arrêter de travailler. Il a dû vraiment s'investir chez lui et s'occuper de sa femme tous les jours à plein temps. Et c'est vraiment quelque chose qu'il fait avec amour et c'est vraiment des défis du quotidien. C'est vraiment quelque chose, on pourrait se dire oui, mais c'est pas grand-chose, mais en fait, c'est vraiment quelque chose de puissant de voir qu'il a tout arrêté pour vraiment s'investir dans son couple, vraiment chercher à glorifier Dieu. Et en parallèle, son frère jumeau, parce qu'ils sont jumeaux, son frère jumeau relève des défis d'une autre manière parce qu'il fait des études de droit et il est en train de finir ses études de droit à Harvard. Et il est vraiment en train de continuer à servir Dieu dans les hautes sphères, on va dire. Et on voit que le contraste entre les deux vies, c'est deux chemins de vie totalement différents, mais avec la même vision des choses, relever des défis pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas juste se dire « Ah ouais, un tel, il fait ça, j'aimerais trop faire, mais je n'y arrive pas. » Dans notre propre vie, avec nos propres moyens, on peut aussi relever des défis, et c'est vraiment ce qui est vraiment encourageant. Donc, voilà.
Merci Noémie. Donc, on a fait la partie révolution aussi, donc du coup comme ça vous savez quel est ce mouvement, et du coup si ce qu'on est en train de vous partager là, ça répond à quelque chose qui est en vous, ou que quelque chose que vous avez envie de développer, allez sur le blog La Révolution. Voilà. Et si vous avez aussi un petit marque-page dans vos trucs, et franchement, il y a énormément de ressources sur ce blog, et ça peut vous encourager à relever des défis, et à faire de votre vie un truc sympa, quoi. Je dis pas que maintenant, c'est pas sympa. J'enchaîne, je continue. Relève de bons défis. J'aimerais juste vous donner 5 axes sur lesquels... Enfin, sur ce qui fait un bon défi et ce qui fait un mauvais défi. Et là, je ne parle pas au niveau spirituel, je parle vraiment au niveau pratique. D'abord, un bon défi, il doit être spécifique. Si vous dites... je veux changer le monde, bah ça c'est pas un défi, c'est même pas un début de rêve, et il y a vraiment peu de chances que vous le releviez. Donc réfléchissez à des choses vraiment concrètes, vraiment pratiques, et des choses, par exemple si tu dis lire la Bible tous les matins de 6h à 7h, ça c'est un défi spécifique. Ensuite, ayez des défis qui sont mesurables. C'est-à-dire que tu dois pouvoir mesurer si tu as réussi ou si tu n'as pas réussi. Si tu dis « Oh, j'ai envie d'aimer plus les gens », bah ça, ce n'est pas un défi. Ça, c'est juste un début de résolution. Mais si tu dis bah, « Demain, j'invite mon voisin à prendre un café chez moi » ou « Demain, je vais aider la personne qui est toujours tout seul au lycée et je vais aller lui l'aider dans ses devoirs parce que je sais qu'il a des problèmes en maths », bah voilà, ça, c'est un défi qui est mesurable. Parce que tu sais très bien si à la fin, une fois que tu l'as relevé, tu l'as vraiment réussi ou tu ne l'as pas réussi. Ensuite, le propre d'un défi, c'est d'être ambitieux. Et je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à être ambitieux. Enfin, viser des trucs de ouf, quoi. Franchement, enfin, on parlait de Malala tout à l'heure, on parlait de Alex qui a fait Harvard. Enfin, c'est des trucs de dingue, quoi. Mais franchement, on peut faire des trucs, quoi. Enfin, statistiquement, dans cette salle, il y a des mecs qui sont plus intelligents que d'autres et qui vont réussir à faire des trucs encore plus forts humainement. Et puis, peut-être qu'ils vont leur arriver des trucs et ça va être difficile pour eux. On ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Mais viser des trucs grands, si vous voulez essayer d'accomplir des choses dans votre vie qui en valent la peine. Et ça, j'en suis convaincu que si vous le faites dans la fidélité et dans l'obéissance à Dieu, ça permettra de l'honorer. Ensuite, soyez réaliste quand même. Si vous dites « j'aimerais poser le pied sur Jupiter », même avec les progrès techniques, ça risque d'être quand même un petit peu difficile. Donc soyez réaliste et soyez réaliste sur le monde qui vous entoure, sur les progrès technologiques et tout ça, mais soyez aussi réaliste sur vous-même et sur vos propres capacités. Visez loin, mais soyez quand même réaliste sur ce que vous pouvez faire et sur vos capacités. Et enfin, soyez... Enfin, j'ai mis temporel, mais c'est vraiment dans cette idée de se dire... je veux que mon défi, il ait une date limite. Les défis sont des rêves avec une date butoir. C'est un conférencier qui s'appelle Hal Urbain qui a dit ça. Et je trouve ça vraiment vachement juste, quoi, de se dire, si tu dis j'ai envie de changer ça dans ma vie et que tu ne te donnes pas de deadline, bah, tu risques de jamais le faire. Donc mets-toi une date butoir et regarde au fur et à mesure comment est-ce que tu, comment est-ce que tu l'accomplis. Donc vraiment, réfléchissez à des défis. Qu'est-ce que vous voulez être dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que, si vous parlez, imaginez, vous avez une discussion avec vous-même, mais dans 5 ans. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire? Qu'est-ce que vous voudriez avoir accompli à ce moment-là de votre vie? Qu'est-ce que vous voudriez avoir fait qui ait de l'importance pour le royaume de Dieu? Réfléchissez à ça et moi je vais vous donner une feuille, là tout de suite, maintenant, parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous risquez de jamais le faire. Et je vais vous donner une feuille et vous avez 15 défis à écrire, c'est un truc complètement personnel, je ne les relèverai pas. Mais franchement, prenez le temps de réfléchir à 15 défis que vous pouvez relever dans votre vie. Peut-être que vous aurez encore d'autres idées dans la suite de l'atelier. Et franchement, j'ai fait plein de congrès de jeunes. Et souvent, les feuilles qu'on remplit pendant les congrès de jeunes, elles disparaissent dans la pochette du congrès de jeunes qu'on cache sous le lit ou dans un truc comme ça. Et ensuite, on ne la revoit jamais. Alors, je vous demande juste de la prendre et de la mettre dans votre Bible ou de la sortir, de l'accrocher sur votre frigo si vous avez un petit studio ou de la mettre sur votre ordinateur et de régulièrement la regarder ou sur votre table de nuit. Et une fois tous les mois, une fois tous les 6 mois, je sais pas, prenez le temps de la regarder et de regarder, tiens, où j'en suis par rapport à ce défi-là, où j'en suis par rapport à ce défi-là. Et une chose que j'ai appris en écrivant les défis, c'est qu'on voit aussi à quel point Dieu peut exploser toutes nos attentes, à quel point Dieu peut exploser tout ce qu'on a en tête et tous nos rêves les plus fous, à quel point Dieu il peut aller bien au-delà. Et je trouve que c'est juste incroyable. Je vous dis juste par rapport à une chose très concrète à ce sujet qui m'est arrivé. Avant de partir, donc avec ma femme, on s'est marié en août 2015 et on avait pour projet de partir un an dans un milieu social. Et notre défi à ce moment-là de notre projet de partir en Amérique latine, il était triple. C'était un défi conjugal, c'est-à-dire vivre notre première année de mariage dans un contexte complètement différent et apprendre à se construire tous les deux ensemble. Donc un défi conjugal. Ensuite, un défi professionnel. On ne voulait pas juste faire du social pour faire du social, mais on voulait grandir professionnellement, augmenter nos compétences professionnelles. Et c'est ce qu'on a fait. Moi, c'est ce que j'ai pu faire. J'ai fait du contrôle de gestion. Donc, j'ai géré des entreprises et des associations en Amérique du Sud. Et du coup, quand je suis revenu devant des recruteurs en rentrant, j'ai pu leur raconter ce que j'ai fait. J'ai pu leur raconter quels étaient les domaines dans lesquels moi, j'avais progressé pendant cette année en Amérique latine. Donc, un défi professionnel. Et ma femme, pareil. Elle est enseignante, elle est prof de violon. Elle est violoniste et prof de violon. Et en Amérique latine, elle a monté des projets de violon avec des gamines qui n'avaient jamais fait de violon de leur vie. Et elle s'est rendue compte qu'elle progressait 3 fois plus vite que toutes ses élèves en France parce qu'elles avaient une persévérance de dingue. Et le fait d'avoir travaillé dans des milieux comme ça, elle aussi, elle a grandi au niveau professionnel. Et un défi aussi spirituel, c'est aussi faire confiance à Dieu. On est parti, quand on a pris l'avion, aller simple de Paris jusqu'à Buenos Aires, on n'avait aucun plan, on n'avait rien. On est parti. Moi, j'avais quelques amis à Buenos Aires. On les a contactés. On a dormi chez eux pendant un mois. Et pendant un mois, Dieu a ouvert toutes les portes. Et on a dit, tiens, pendant 6 mois, on peut aller au Pérou. Pendant 3 mois, on peut aller en Équateur. Donc, on va prendre le bus et puis on va aller vers le Pérou. Et voilà. Et les choses se sont faites comme ça. Et du coup, on a appris aussi à faire confiance à Dieu dans un contexte différent, dans une situation différente. Et c'est juste incroyable de voir. Parce que, en fait, tout ça, on l'avait plus ou moins écrit. On s'était dit, qu'est-ce qu'on veut de cette première année de mariage? Qu'est-ce qu'on veut faire? Où est-ce qu'on veut servir? Dans quel domaine? Dans quel type d'église on aimerait travailler? Etc. On avait écrit des choses comme ça. Ce n'est pas des choses qui nous engagent, mais c'est juste des rêves, des défis qu'on avait écrits avant. Et on l'a regardé un an après et on a vu, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et c'est juste incroyable. Cette liste qu'on avait oubliée, qu'on avait fait dans un petit document comme ça avant de partir, on a vu à quel point Dieu avait explosé toutes nos attentes et qu'on avait appris beaucoup plus que tout ce qu'on avait pu imaginer. Et donc du coup, franchement, regardez-les souvent et vous vous rendrez compte, déjà, comment est-ce que vous pouvez continuer à progresser pour avancer vers les défis que vous avez écrits. Des fois, vous avez des défis que vous allez devoir abandonner parce que si vous avez mis « je veux courir un marathon » et que vous avez pour vous casser la jambe, c'est peut-être pas dans la première année que vous allez courir votre marathon. Et des fois, il y a des choses qu'il faut réajuster parce que ce que vous écrivez, ce n'est pas des prophéties qui vont se réaliser à coup sûr, c'est des défis que vous vous lancez. C'est vraiment, il faut vraiment que vous fassiez bien la différence. Mais du coup, franchement, c'est juste incroyable de voir comment Dieu il peut exploser vos attentes. Et je termine avec ma dernière partie, avec 5 étapes concrètes pour une vie de défi. La première, c'est de fuir la médiocrité. C'est ce que un peu Noémie nous a partagé dans la vision de la rébellion. Et vraiment, la société, elle attend de nous, de vous, que vous soyez assis dans votre fac ou dans votre lycée, et que vous travaillez bien à l'école, et qu'après, Tout le reste, c'est de la consommation. Et franchement, vous pouvez faire 15 fois plus que ça, quoi. On a vu des jeunes de 16 ans qui ont des prix Nobel. On a vu des mecs de 15 ans qui commençaient un blog international. On a vu des... Il y a des choses comme ça qui arrivent. En plus, maintenant, c'est de plus en plus facile. Il y a des gars qui commencent des cours de vie, des vidéos, je sais pas quoi, sur YouTube et qui connaissent la célébrité en 2 ans. Je vous demande pas de chercher la célébrité, mais je vous dis juste que c'est encore plus accessible aujourd'hui de faire des grandes choses rapidement parce qu'il y a des moyens de communication incroyables que vous pouvez utiliser pour ça. Donc, fuyez la médiocrité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mec que j'aime bien qui s'appelle Benjamin Higgins, qui est en train de faire son atelier juste de l'autre côté, qui a écrit sur la rébellion « Le péché est ce qui fait notre médiocrité ». Et c'est exactement ça, en fait. Dieu, il nous pousse à viser l'excellence, à faire des choses grandes dans notre vie. Alors, ça peut être obéir à nos parents, comme ça peut être monter une boîte, comme ça peut être faire des choses comme ça. Mais quand on reste dans ce qu'on fait, quand on reste dans ce qu'on fait, qu'on ne se lance pas de défi, il y a un péché qui est là et qui s'appelle la paresse. Je continue. Changez vos habitudes. Pourquoi ? Parce que c'est de vos habitudes que vous allez vous fixer et de la discipline de vie que vous allez avoir, que vous allez tout changer dans votre vie. Enfin, pas tout changer, j'exagère, mais regardez. Ça, c'est une citation d'un gars que j'aime bien qui dit « Plante une action, récolte une habitude. Plante une habitude, récolte un caractère. Plante un caractère, récolte une destinée. » Je ne vous demande pas de rechercher la destinée, mais je vous demande de comprendre l'esprit de cette citation. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que si vous avez une discipline de vie dans les moindres petites choses, eh ben, vous allez pouvoir apprendre des choses beaucoup plus vite, vous allez pouvoir grandir dans plein de domaines. Je vous donne un exemple très concret. Sur mon nouveau travail, j'ai 45 minutes de trajet aller et 45 minutes de trajet, donc en voiture, hein, de trajet retour pour aller au travail. Eh ben, ce temps-là de voiture, je peux juste l'utiliser pour rêver, je peux juste l'utiliser pour regarder le paysage, je peux juste l'utiliser comme ça. Mais je peux aussi l'utiliser pour faire des choses beaucoup plus productives. Et depuis une semaine, j'ai décidé que j'allais écouter des enseignements, des prédications, des trucs. Et voilà, peut-être que et donc du coup, maintenant, je télécharge des trucs sur mon portable et j'écoute des enseignements, des livres audio, des trucs comme ça. Et du coup, bah, j'apprends des choses. Et le temps que j'ai pas pour lire ou pour apprendre des choses, bah, je peux l'avoir. Et simplement, c'est quoi ? C'est une discipline de vie. Ça veut dire que le dimanche soir, bah, je prends mon portable, je le branche sur mon ordi et je me dis, bon, bah, alors cette semaine, qu'est-ce que je vais écouter ? Je prends 3 trucs, ça me prend 5 minutes. Et après, avant de partir sur boulot, je mets mon truc et j'apprends des trucs de dingue simplement et j'ai pas plus de temps que quelqu'un d'autre, mais simplement parce que je me fixe une discipline et que je m'y tiens. Et ça, franchement, on peut tous le faire et ça commence dans les petites choses et ça peut rapporter vraiment gros. Je continue. Entourez-toi bien. Entoure-vous bien. Non, sérieux, entoure-toi bien. Pourquoi ? Il y a une citation que j'aime bien, je vous mets plein de citations là. Pourquoi ? Parce que tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Alors si tes 5 meilleurs amis, si les gens que tu fréquentes le plus, eh ben, ils te tirent vers le bas, eh ben, tu vas finir par les ressembler. Et si tes 5 meilleurs amis, ils te lancent des défis, vous avez une relation de redevabilité l'un avec l'autre, ils vous disent « mais vas-y, lance-toi des défis, est-ce que tu as lu ta Bible cette semaine ?» et tout ça, et bien là, vous allez monter. Et c'est aussi là-dedans que rentre la relation avec des mentors. J'en ai parlé au tout début dans un des défis que je vous ai proposé. Franchement, choisissez vos mentors. Tous les mecs que je connais qui ont un leadership développé, on va dire, ils ont des mentors qui les suivent, qui les surveillent, qui les reprennent s'il faut les reprendre et qui les encouragent à grandir. Donc choisissez bien vos amis et réfléchissez avec eux comment est-ce que vous pouvez vous tirer les uns les autres vers le haut. Oui. Un mentor, super bonne question, c'est quelqu'un qui est plus âgé que nous ou qui a plus d'expérience dans un domaine et qui va nous aider à grandir via une relation qui est durable. C'est-à-dire que tu vas l'appeler ou lui écrire une fois de temps en temps et vous allez réfléchir ensemble sur comment toi tu peux atteindre les défis ou les objectifs que tu te fixes dans ta vie. Non, pas forcément. Par exemple, imagine, moi, demain, je veux lancer un blog et il y a quelqu'un qui a 5 ans qui est moins âgé que moi, mais ça fait il blog depuis 6 ans. Lui, il peut me donner des conseils sur le blogging. Je continue. Commencez petit et visez haut. Commence petit et vise haut. Franchement, c'est ce que dit Jésus quand il nous dit « Soyez fidèles dans les petites choses et on vous en confiera de plus grande. Penser global, agir local, c'est une citation d'un monsieur qui a fait du marketing qui s'appelle René Dubos. Et c'est ça en fait, c'est on réfléchit à qu'est-ce qui peut changer le monde et on agit sur, par exemple si on dit le plus gros problème du monde, c'est pas ce que je pense, mais le plus gros problème du monde c'est la pauvreté, ou voilà, on va dire bah, comment est-ce que je peux réduire la pauvreté dans mon quartier ou dans ma famille. Et du coup on agit local et on est un exemple pour autour de soi. D'accord. Et ça commence juste avec l'évangélisation du monde. Le plus gros problème du monde, moi je crois que c'est les gens qui n'ont pas accès à l'évangile et qui meurent chaque jour et qui vont en enfer chaque jour. Ça c'est le plus gros problème du monde. Mais du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, au lieu de se dire oh là là comment je vais faire pour atteindre les pauvres petits équatoriens qui ont rien, et ben on va s'impliquer. Soit on va travailler avec les réfugiés équatoriens qui sont en France, soit on va envoyer de l'argent, même si c'est 1 euro, on s'en fout, mais on va s'engager dans quelque chose localement. Donc typiquement autour de chez nous, mais ça peut être des petites actions qui ont de l'impact autour et plus loin. Donc pensez grand, rêvez grand, soyez ambitieux et agissez dans quelque chose de concret qui a du sens et qui fait le lien avec cette vision. Et vous allez voir qu'en travaillant, en commençant à travailler dans quelque chose, vous allez avoir une cohérence et vous allez avoir une pertinence pour pouvoir prendre des initiatives plus grandes, prendre des responsabilités plus grandes pour s'engager dans des projets plus grands. Et ensuite... Et dernière étape, rebondis sur tes échecs. Je pense qu'on a vraiment besoin de revoir toute notre théologie de l'échec et de se dire, des fois, et particulièrement en France, quand on a un échec, quand on fait une erreur dans notre vie, on nous dit « c'est pas bien, t'es nul » et c'est un problème dans notre société parce que du coup, on se décourage. Mais si on se dit que l'erreur, c'est un tremplin, c'est un essai pour arriver à quelque chose, on peut réussir à faire plein de trucs. Si vous étudiez la vie des mecs, des grands entrepreneurs qui ont commencé des choses, des Mark Zuckerberg ou des types comme ça, ils ont tenté plein de trucs et des fois ça n'a pas marché. Et puis au bout d'un moment, il y a un truc qui fait que ça marche. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont appris de toutes les erreurs qu'ils ont faites avant. Une citation que j'aime bien qui dit « Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser ». C'est l'abbé Pierre qui a dit ça. Et je pense que il y a une part de vérité là-dedans, quoi. Franchement, tenter des trucs, ça marchera pas la première fois, ça marchera pas la deuxième fois, peut-être que ça marchera pas 100 000 fois, mais la 100 000e une fois, ça va marcher. Alors c'est pas la course missionnaire, mais ça pourrait presque l'être. Je vous encourage à y aller, quoi. À mettre un pied devant l'autre. Vous avez votre plan d'action, il est sous vos yeux dans la liste de défis que vous avez faite. Je vous ai dit plein de trucs qui peuvent vous aider à mettre les choses en place dans votre vie pour pouvoir avancer et pour pouvoir mettre en place ces choses-là. Vous avez toutes les clés en main pour pouvoir le faire. Faites-le avec Dieu, faites-le pour la gloire de Dieu et pas pour votre propre gloire. C'est comme ça qu'on avance, quoi. Quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et les défis que vous relevez, faites-le aussi pour la gloire de Dieu. Je m'arrête là. Et puis, je suis là pour, si vous avez des questions, je vais demander à Noémie aussi de venir avec moi. Et on va tenter de répondre si jamais vous avez des questions sur le sujet abordé. Qu'il y a des questions. Ouais. Donc la question, si je comprends bien, c'est comment est-ce que les gens qui n'ont aucun accès à l'évangile, ils peuvent le savoir pour être sauvés, c'est ça ? C'est une question qui divise les théologiens, déjà, il faut le savoir. mais pour faire simple, on va dire que lève-toi et vas-y. Non, mais c'est justement quelque chose qui nous pousse à accomplir la mission et à s'investir dedans. Aujourd'hui, il y a des gens qui, effectivement, ils n'ont pas accès à l'évangile, mais il y a des choses qui sont incroyables, qui se passent et qui font que Dieu, il les met devant nous. Je te donne un exemple particulier. Il y a 3 semaines à Paris, dans une église qui s'appelle Télégraphe. Il y a des gens qui ont de Télégraphe par ici ? Non. C'est une église à Paris. Et cette église, elle accueille des réfugiés qui viennent du monde entier. Et dans certains de ces réfugiés, il y a des gens qui viennent du... des Soudanais. Des Soudanais. Et le peuple soudan qui est là-bas, c'est le peuple qui vient... Les gens avec qui on a parlé, en gros, il y a des peuples là-bas, dans cette église, qui font partie de peuples qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Et Dieu nous les amène et les amène à Paris et ils vivent à côté de nos églises. Et franchement, je me dis qu'il y a une opportunité de dingue parce que c'est des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'ils auront assez d'argent, ils vont l'envoyer à leur famille ou alors ils vont trouver un travail ici et ils vont faire venir leur famille ou alors ils vont retourner dans leur pays une fois qu'ils auront assez d'argent, une fois que la situation sera en paix là-bas. Et donc c'est des gens en fait que s'ils se convertissent en France, ils auront un impact dans leur pays là-bas. Et c'est juste dingue de voir les choses comme ça. Et de la même manière que les réfugiés, il y a des étudiants aussi. Vous allez commencer vos études et intéressez-vous au mec qui est tout seul. Et des fois, il y a des fils de présidents africains qui peuvent être dans vos promos et qui sont complètement perdus. Et c'est des mecs qui ont une intelligence de fou, qui sont des fils de hauts diplomates ou de présidents et qui sont là et qui viennent étudier en France parce que leurs parents et la société les poussent à aller étudier en Europe. Et ils sont là et il n'y a personne qui les connaît. Et si lui il se convertit, il peut retourner dans son pays, il aura une influence de dingue en tant que diplomate. Donc vraiment, je vous encourage à réfléchir comme ça. Et effectivement, on peut se poser la question de comment est-ce que les gens qui n'ont aucun accès à l'évangile ils peuvent être sauvés. Et il y en a qui ont différentes positions là-dessus. Il y en a qui vont dire qu'ils sont sauvés en voyant certaines choses, certains signes de Dieu dans la nature. Il y en a qui vont dire que... Dieu peut se révéler par des rêves, même à ces personnes-là, et que du coup, ce qui est important et ce qui est biblique là-dessus, c'est que la Bible dit que tous les hommes sont inexcusables devant lui et sont pécheurs, et donc tous ont besoin de Jésus, et c'est par le sacrifice de Jésus que tout homme sera sauvé, où qu'il soit dans le monde. Ça, c'est ce qu'on peut dire bibliquement à 100%. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je veux retourner en Amérique latine? Ouais. Ouais, grave. Je veux retourner dans les pays où je suis pas allé, en Chili, au Brésil. Et j'aimerais aller m'immerger encore plus profondément dans la forêt amazonienne. Il y a encore quelques peuples qui n'ont pas encore entendu l'évangile et j'aimerais bien avoir une expérience comme ça. Je ne sais pas si ce sera faisable, mais j'ai gardé contact avec plein de personnes là-bas et du coup, c'est juste fou de voir la différence entre l'état de la mission il y a 50 ou 60 ans et de voir tout ce qui a été accompli dans cette période-là en Amazonie et en Amérique latine. Et maintenant, nos regards devraient plutôt, je pense, se tourner. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ces régions-là, il faut toujours envoyer des ressources, etc. Mais c'est plus de bonne théologie qu'ils ont besoin dans ces pays-là et plus regarder vers les pays du Moyen-Orient, les pays d'Afrique du Nord, où c'est des pays où il y a énormément, énormément de peuples non atteints. Mais ouais, j'ai envie de retourner en Amérique latine, à fond. Ouais. De douter de moi? Oui. D'accord, donc à quelle occasion... Ouais. À quelle occasion est-ce que j'ai eu de douter de moi dans ce que j'ai fait dans ma vie, c'est ça? Ouais, par exemple, quand on est parti en Argentine, quand on a pris notre aller simple, on est arrivé en Argentine et au début, il n'y avait rien qui s'ouvrait et on priait avec ma femme et on était là, on se disait, est-ce qu'on a bien fait de partir, tu vois? Est-ce qu'on a bien fait de dépenser tout cet argent dans des billets d'avion pour... Et donc là, on s'est remis à Dieu, on a attendu un petit peu de temps et Dieu a ouvert les portes. Mais de manière générale, je pense pas que je sois quelqu'un, je pourrais pas dire Je vous dirai jamais croyez en vous, c'est comme ça que vous allez accomplir les choses, quoi. Franchement, croyez en Dieu, il ne vous décevra pas, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne nous avait pas promis qu'on allait faire un truc de fou en Amérique latine. Ça se trouve, on aurait été en Amérique latine, on aurait fait un petit voyage en Argentine et puis on serait rentré parce qu'aucune porte serait ouverte. Dieu, il ne nous promet pas ce genre de choses dans la vie concrète. Enfin, à moins que... Enfin, voilà, je ne sais pas ce que vous lisez dans la Bible, mais il faut bien interpréter les choses correctement. Et Dieu, il nous promet une vie incroyable, mais des fois, ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu et ce n'est pas les promesses qu'on peut s'imaginer sur le monde. Ouais. Alors, comment est-ce que je différencie la persévérance et l'obstination ? T'as une idée ? L'obstination, c'est plus... Il y a un côté un peu plus péjoratif, en général, quand on en parle. Ça dépend peut-être des dictionnaires que tu regardes, mais... La persévérance, c'est une vertu de la Bible, si je me trompe pas. D'accord. D'accord. Donc c'est comment est-ce que je fais la différence entre D'accord. Donc quand est-ce qu'on s'obstine, quand est-ce qu'on persévère? Donc en gros, quand est-ce qu'on fait la volonté de Dieu et quand est-ce qu'on s'entête contre la volonté de Dieu ? C'est ça. Je pense que, je ne sais pas si vous avez été à l'atelier sur la volonté de Dieu, et je crois que notre vie, elle est super tracée et elle est très claire. Par contre, on ne connaît rien de tout ça, et pour le savoir, il faut s'engager dans des trucs. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Il faut qu'on tente des trucs et il faut qu'on s'engage dans les choses qui nous plaisent, dans les choses dans lesquelles on se sent appelé. Et donc, du coup, par rapport à ta question, ça veut dire que si tu t'obstines, tu vas faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Par exemple, imagine, je dis à ma femme... on part en Amérique latine, je me sens appelé à aller dans une tribu amazonienne, j'ai vu sur la carte, ils n'ont pas accès à l'évangile. Et ma femme, elle dit, écoute, moi je veux bien y aller, mais je ne supporte pas les piqûres de moustiques. Et si j'y vais, il y a de grandes chances que j'ai des gros dégâts, ça risque de me faire vraiment du mal pour mon corps. Et là, je suis dans une solution, qu'est-ce que je fais ? Soit je ne prends pas ma femme, mais je me suis engagé à vivre avec elle toute ma vie, donc du coup, je ne peux pas. Et je désobéirai à Dieu en faisant ça. Soit je la prends et je vais lui faire du mal. Et donc là, parce qu'elle va être dans un contexte où elle aura du mal. Et donc là, je pense que d'une certaine manière, je désobéirai à Dieu envers un engagement qui est plus grand, c'est l'engagement que j'ai vis-à-vis de ma femme. Donc réfléchir, je te dirais, réfléchis dans les situations dans lesquelles tu es en train de t'obstiner et est-ce que dans ces situations-là, tu es en train de pécher ou de désobéir à Dieu ?
Pour ceux qui se posent ce genre de questions, peut-être par rapport à leurs études, ou je ne sais pas, je pense que c'est comme Nicolas l'a dit, notre vie est tracée et à partir du moment où notre objectif, c'est d'imiter Christ, de vraiment le glorifier, si jamais, je ne sais pas, on galère dans nos études, mais qu'on voit vraiment qu'on peut glorifier Dieu dans cette filière et que Dieu nous a vraiment mis à cœur de nous engager, l'échec... C'est pas grave si vraiment on sait que ça va nous permettre de rebondir et de pouvoir ensuite être un témoignage. Alors que si on persévère juste pour un objectif égoïste, peut-être juste pour l'argent, alors que Dieu nous dit non, moi je veux que tu fasses plutôt ça, je pense qu'il faut vraiment aussi prendre le temps de persévérer et faire confiance à Dieu à ce niveau-là. Donc voilà. Ok, mon petit témoignage perso. Alors moi du coup, j'ai toujours été une plutôt bonne élève, jusqu'à l'université où ça a été vraiment compliqué. C'était compliqué, j'ai vraiment eu à cœur de faire des études de droit. Et donc ce qui a été difficile, ça a été d'être indépendante et autonome. J'ai toujours eu l'habitude de faire ce que les profs me disent de faire. Et là, quand je sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont peut-être déjà à l'université. Ou, enfin voilà. Ouais. Et ouais, bah du coup, dès que toi aussi, ouais, voilà. Et à l'université, on est vraiment, on est vraiment amené à être indépendant, autonome. On n'a pas un prof qui est tout le temps derrière nous. Et c'est vraiment quelque chose qui a été difficile pour moi à gérer. Et en plus de ça, la difficulté des études de droit, même si j'apprenais par cœur, je ne comprenais pas les méthodes. Donc j'ai redoublé à 9 de moyenne. Donc ça a été difficile, moi qui n'avais jamais redoublé. J'ai toujours été la plus jeune dans ma classe. Voilà. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Et Dieu m'a permis pendant cette année de faire plein de choses pour sa gloire. C'est cette année-là que j'ai fait des semaines d'évangélisation, que j'ai appris à connaître pas mal de gens. Je me suis intéressée à la théologie. Ça a été vraiment une année riche en émotions. J'ai vraiment été bénie. Et donc, je me retrouve en deuxième année. Et là, je me dis, OK, là, c'est bon. Tout va bien se passer. Et en fait, je crois que quelque chose s'est brisé et qu'il y a quand même eu un manque de travail parce que j'ai redoublé la deuxième année. Et je pense qu'en fait, le fait d'avoir redoublé ma première année m'a fait perdre confiance en Dieu, dans ce qu'il pouvait faire à travers moi. Et donc, ça fait que j'ai travaillé, mais j'ai redoublé encore une fois à 9, alors qu'il fallait 10. Et je me suis dit, Noémie, tes objectifs sont trop médiocres, en fait. Parce que je pense que vraiment, Dieu voulait me travailler à ce niveau-là. Moi, je voulais juste passer l'année suivante. C'était ça, mon objectif. Alors que Dieu voulait vraiment que je me donne totalement à fond. Et c'était vraiment ça. Et donc, là, justement, je suis en deuxième année et par la foi, je pense que je vais valider avec de vraiment beaux résultats. Mais c'est vrai que ça a été difficile, ça a été difficile à comprendre au début, mais Dieu m'a vraiment travaillé à ce niveau-là et je persévère parce que je sais que c'est vraiment une filière dans laquelle Dieu veut que je le serve vraiment à travers le droit. Je pense que je peux vraiment apporter beaucoup avec ça. Donc voilà.
Ouais. Je veux dire que qu'est-ce que j'entends par le fait qu'on ait une vie tracée? J'entends que Dieu est souverain sur toute chose dans le monde, qu'il maîtrise toute chose et que toutes choses sont quelque part écrites à l'avance. Mais ça ne veut pas dire que nous on n'a pas de responsabilité là-dedans. Et ça ne veut pas dire que quand t'es toi devant tes deux choix et que tu ne sais pas quoi faire, eh ben, ce que tu feras au final, c'est ce qui sera écrit. Tu vois ? Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un bon choix et un mauvais choix, surtout si c'est deux choix entre deux universités ou ou par exemple le choix du conjoint. Tu vois deux filles qui sont magnifiques. Si tu t'engages bien avec une fille et que tu fais les choses dans l'ordre, en toute pureté et bien, et bah, si tu le fais potentiellement avec l'une ou avec l'autre, et bah, ce sera la femme de ta vie à partir du mariage, et bah, ce sera la volonté de Dieu. Tu vois. Ouais. Dans le sens d'un atelier comme ça ? D'accord. Alors que la question, c'est qu'est-ce que je dois faire pour organiser un congrès comme Pâques 2017 chez moi ? Amen. Alors, ouais, franchement, commence par prier. Et franchement... Et ensuite trouve des personnes avec qui tu peux travailler parce que toute seule je te connais pas bien, ça se trouve t'es extraordinaire et tu l'es sans doute, mais pour un congrès comme ça, regarde, même Pierre Klipfel, il est super fort, mais il a besoin de toutes les forces oranges pour pouvoir faire un congrès comme ça. Donc t'auras besoin de gens pour pouvoir le faire. Et comme c'est un congrès chrétien, je t'encourage aussi à discuter avec les églises, avec les responsables d'église pour organiser quelque chose comme ça. Et puis ensuite à réfléchir à qu'est-ce que tu veux transmettre. De poser un peu ce qu'on appelle ton cahier des charges, quoi. Qu'est-ce que tu veux transmettre, ta vision, tes objectifs, les moyens que tu vas mettre en œuvre, l'argent qui sera nécessaire, comment tu vas le trouver, enfin voilà, de monter ton projet, mais de pas le faire toute seule et de bien réfléchir avec les responsables des églises sur place pour pas que tu arrives comme un ovni et que les gens ils te regardent, c'est qui celle-là qui fait un congrès de. Voilà. Voilà, c'est deux, trois trucs que je peux te donner. Après, c'est un travail incroyable. Mais commence petit à petit, quoi. Et peut-être que du premier coup, tu ne feras pas un congrès avec 800 jeunes. Mais peut-être que petit à petit, ça peut se lever. Ouais.
J'allais rajouter ça. Je pense que c'est important aussi de s'exercer de plus en plus, comme tu disais, le verset, c'est d'abord dans les petites choses.
Ouais, c'est...
Sois fidèle dans les petites choses.
Soyons fidèles dans les petites choses, Dieu nous en donnera de plus grandes. Donc commence petit et puis petit à petit, tu verras et tu prendras confiance aussi dans ce que tu fais. Ouais.
Au début, moi je voulais pas du tout faire du droit. Ah oui. Comment j'ai acquis la conviction de faire du droit? Au début, je ne voulais pas du tout faire du droit. Pour moi, le droit, c'était vraiment juste d'envoyer des gens en prison. Enfin, c'était vraiment pas, c'était pas mon truc, parce que voilà. Et en fait, depuis le collège, je priais pour mon orientation parce que je ne savais pas du tout quoi faire. Je priais, je me disais, bon Seigneur, je sais que tu vas me montrer la voie. Je ne sais pas c'est quoi, mais je te fais confiance. Et je me suis dit, j'ai encore un peu de temps, donc voilà. Alors, je suis allée en seconde générale. Je me suis dit, bon, cette année, je vais trouver ce que je veux faire. Je n'ai toujours pas trouvé. Je me suis dit, je ne sais pas. En fonction de mes notes, les profs m'ont redirigée vers une terminale littéraire. Je suis allée en L. Et je commençais à me poser des questions. Je me suis dit, mais là, je vais faire quoi après, en fait? C'est compliqué, je suis en L, je ne sais pas ce que je veux faire. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de pouvoir choisir entre l'option droit ou l'option langue. Et je me suis dit, ouais, non, les langues, pas trop. Pourquoi pas choisir l'option droit? Mais je me suis dit, c'est pas vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, mais je vais tester. J'ai prié par rapport à ça et j'ai choisi l'option droit. J'ai commencé à suivre les cours et j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai vu que, enfin, mes préjugés sont tombés. C'était pas juste envoyer des gens en prison, enfin voilà. Et en fait, en faisant des recherches, j'ai vu que ma personnalité, parce que moi, je pense que je suis plutôt amenée à travailler dans le social plutôt que dans le pénal. Enfin, c'est en fonction de ma personnalité. Et à force de prier et à force de faire des recherches, Dieu m'a vraiment mis à cœur de faire du droit. Et je me suis dit que c'est vraiment quelque chose avec lequel je pourrais vraiment servir. Donc ça s'est vraiment fait sur une longue période et voilà.
Peut-être une dernière question. D'accord, bah, moi je vais... Ouais, vas-y. Comment est-ce qu'on choisit entre nos différents défis, c'est ça? Tu commences par le plus dur. Non, c'est même pas vrai en plus. Tu fais en fonction des moi je fais en fonction des moyens et des circonstances qui m'aident à le réaliser. Je sais pas, si un de mes défis c'est de me marier et que j'ai pas de femme, et ben ça va être moins prioritaire que si un de mon défi c'est marié et je suis déjà fiancé, tu vois. Voilà. Juste pour conclure, j'aimerais juste insister sur un point. C'est que vous pouvez être appelé à devenir missionnaire, et c'est génial, on a vraiment besoin de missionnaires, mais on a aussi vraiment besoin de gens qui travaillent dans le milieu professionnel. Et moi, je crois que j'ai un appel à gérer les finances dans une entreprise. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent être appelés à faire du droit, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être appelés à être chef d'entreprise, des gens qui peuvent être appelés à monter des projets, à faire des trucs qui sont dans le milieu séculier. Et c'est comme ça aussi qu'on peut servir Dieu. Et il n'y a pas quelque chose qui est plus spirituel que l'autre. Dieu, il est maître de tout. Ça veut dire que nous, on est des administrateurs de tout ce qu'on gère, que ce soit une église, que ce soit une entreprise, que ce soit un GBU ou que ce soit peu importe ce que c'est. Donc vraiment vous encourager à être serviteur de Dieu partout où vous êtes et particulièrement dans vos études et dans la suite de ce que vous ferez. Je vais juste terminer en priant et ensuite ceux qui veulent partir pourront aller manger dans une demi-heure. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous placer devant toi. Tu vois les défis qu'on a écrits sur cette feuille et Père, on ne veut pas que ces défis ils viennent juste de notre orgueil ou de notre envie d'être reconnu. Seigneur, on te prie que tu effaces dans nos têtes les défis qui viennent pas de toi et que tu mettes des bons défis dans notre cœur pour qu'on les relève et qu'on te fasse plaisir en les relevant. Seigneur, on te prie que Tu nous donnes d'être ambitieux et de rêver grand et de te voir à l'œuvre dans notre vie, dans des petites choses, en obéissant à nos parents ou en obéissant à tes commandements et dans des choses aussi différentes et qui auront peut-être plus d'impact sur ce monde ou sur la misère qu'on peut côtoyer chaque jour dans ce monde. Seigneur, je te prie que tu donnes du feu à tous ces jeunes qui sont présents ici. Je te prie que tu les remplisses de ton esprit pour qu'ils puissent faire de grandes choses pour ta gloire, Seigneur, et s'impliquer là où ils sont aujourd'hui et dans plein de grands projets demain, et que je puisse les voir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 1 an, faire des trucs de fou et juste que ce soit dédié à toi et pour ta gloire. Et que quand les gens ils verront leur tête, je sais pas où, dans le journal ou je sais pas où, parce qu'ils ils t'auront servi, ils puissent se dire « Oh là là, quel grand Dieu !» et non pas « Quel grand jeune, Seigneur !» Je te prie que tu nous permettes d'être des relais de ta gloire et de pouvoir transmettre la beauté de ta personne et la beauté de ton évangile autour de nous à travers tout ce que nous ferons. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.